Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, attention, on accueille du poids lourd. Philippe Djian publie son nouveau roman 2030 et il fait un crochet chez nous pour nous en parler. On y revient dans un instant, mais je vous annonce la suite d'abord. Le roman culte, bien sûr, nous lirons la première page de Sur la route de Jack Kerouac, ça va swinguer. Deux salles, deux ambiances, puisque nous visiterons la bibliothèque de Michel Cotta ensuite. Et il n'y a pas que des livres politiques, je vous rassure. Nous irons fouiner dans les rayons d'une librairie, comme toujours, à Vaucresson cette semaine. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. 47 de le matin, ça aurait pu être le titre de son nouveau roman. Finalement, il s'appelle 2030, chez Flammarion. Philippe Djian signe un roman d'anticipation, enfin, pas tout à fait, on va en parler, mais c'est un futur qui a l'air très présent. Il exagère à peine et raconte son histoire dans un contexte de réchauffement climatique abouti. Il fait chaud, on a terriblement chaud en lisant ce livre, 2030 donc. Il y a là Greg, qui travaille pour un laboratoire qui produit notamment un pesticide très très limité pour l'environnement. C'est son beau Fantone qui le dirige. Or, Greg tombe amoureux d'une militante écolo. Pas facile. Il essaye aussi de canaliser la fougue de Lucie, sa nièce, qui, elle aussi, veut changer le monde. Et puis, il y a Aude, la sœur de Lucie, clouée sur un fauteuil après un accident. On suit tous ces personnages dans un quotidien très djianesque, à la fois banal et diablement romanesque. Bonjour, Philippe Djian.
Bonjour.
Vous l'avez écrit en plein été, ce livre, ou en montant le chauffage à fond? Je vous demande ça parce que, comme je vous le disais, vous réussissez à la perfection à nous donner chaud dans ce roman. Vraiment, on a chaud, on ouvre la fenêtre quand on lit votre livre, et ensuite on est bel et bien trempé quand la pluie ne cesse de tomber pendant des jours, et bien décoiffé avec le vent. C'est pas évident de décrire une atmosphère climatique, il suffit pas d'écrire, il fait chaud. Vous avez buté là-dessus, vous avez soigné ça particulièrement?
Bah, pas vraiment en fait, mais vous savez, quand vous écrivez un livre, vous vous plongez, il vaut mieux se plonger dans un univers et puis essayer de voir un peu toutes les facettes de cet univers. Donc je savais qu'il faisait chaud quand j'écrivais ça, et je pense que j'aurais pu écrire ça au Pôle Nord, ça aurait été la même chose. Non, j'étais pas dans mon monde réel, j'étais dans le monde du roman, donc j'avais chaud quoi.
Mais à la relecture, vous n'avez pas ajouté ici et là l'herbe qui est brûlée, etc.
Non, je ne relis pas. J'essaye de faire le travail qu'il faut au moment où j'écris. Et après, je ne relis pas, ce n'est pas la peine. Je pense que c'est aussi compliqué pour un écrivain et pour un peintre ou pour n'importe quel artiste de savoir quand il s'arrête. C'est compliqué. Il y en a plein qui se cassent la figure parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Moi, j'ai décidé que quand j'étais un peu fatigué et que j'avais envie de me séparer un peu de mes personnages, j'arrêtais. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, je pense qu'un écrivain français ne peut pas écrire un bouquin de 700 pages. Là, par exemple, je viens de terminer la lecture de Richard Powers, L'Arbre Monde, qui est magnifique, mais il a mis 7 ans à l'écrire. Le coup d'avant, j'étais en train de lire celui de Gabriel Tennant, qui est My Absolute Darling, ouais, qui est magnifique
succès.
Aussi, mais
Gale
il a
Meister.
Mis 7 ans à l'écrire.
Ouais, ouais.
Et où vous voyez un écrivain français qui, sauf s'il a hérité...
Faute d'argent, vous voulez dire?
Ah ben c'est un problème d'argent. Si vous faites que ça, moi j'ai pas d'autre métier. Je fais vivre ma famille, je vis moi, et voilà. Donc il faut que tous les ans, tous les 1 an et demi, j'ai un nouveau contrat à signer qui fait que je peux continuer. Sauf que ça fait 40 ans que ça dure, cette histoire.
Et vous pouvez pas avoir votre boulot d'écrivain avec un livre par an et en même temps écrire une grande fresque sur 7 ans?
Bah, il faudrait que je trouve... Mais je n'ai jamais de temps de libre pour moi, parce que quand j'ai fini un livre, je me dis, ça y est, je suis tranquille, mais il y a Stéphane qui m'appelle, me dit, où t'en es des paroles de
Stéphane Escher,
ouais. Oui, et puis j'anime des ateliers d'écriture aussi, parce que je pense qu'à un moment, un écrivain ou n'importe quel artiste doit rendre ce qu'on lui a donné. On doit être à un moment... C'est Leonard Cohen qui m'avait mis la puce à l'oreille en disant, on doit être... des passeurs. On doit passer les choses qu'on
va apprises. Revenir d'ailleurs aux ateliers d'écriture, ça m'intéresse, mais quand même, le roman, votre nouveau roman, pourquoi 2030? Pour être ni trop loin dans le futur, ni trop proche?
Trop loin, j'avais peur justement que ce soit un roman d'anticipation ou de science-fiction, et ça, je suis incapable de faire ça. Je ne peux pas imaginer...
Mais vous aimez la science-fiction?
Oui, je l'aime, mais je ne sais pas la faire.
Et tout ça,
c'est comme le western. Ouais. J'adore les westerns. Je n'arrive pas à les écrire. Je ne saurais pas écrire ça. La science-fiction, c'était trop compliqué et ça demande, en même temps, je pense que si on veut être un peu sérieux, des recherches, un peu savoir la technique, comment elle va évoluer, vers quoi on se dirige. Moi, je ne sais rien du tout de tout ça. Donc, j'avais simplement besoin, je ne voulais pas que ça se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce bouquin-là, il est parti de l'image de Greta Thunberg, cette petite nana-là. Et je la trouvais plutôt sympathique et j'aimais son visage. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le truc, mais j'aime bien son visage. Je trouve qu'il m'apaise, j'aimais bien la regarder. Et il se trouve qu'à un moment, en France, il y a eu tout un tas de vieux messieurs qui étaient des intellectuels qu'on voit sur tous les plateaux de télé, qu'on commençait à lui tirer dans les pattes en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette petite conne qui nous emmerde, qui parle de ce qu'elle ne sait pas ?» Et j'aurais bien aimé leur demander si eux savaient ce qu'il faut faire pour le climat. Ils n'en savent rien non plus. Seulement cette espèce... Vous savez, j'ai des animaux chez moi, j'ai des chats, et puis il y en a un tout petit qui vient d'arriver. Dès que le tout petit rentre sur le territoire des autres, ça crache. Eh bien, il y a des vieux messieurs en France qui ont craché. Et je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je ne veux pas qu'on vienne me dire, mais est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit ? Non, je ne veux pas vous parler. Je n'ai rien à vous dire. Ce n'est pas que je vous déteste, mais je n'ai rien à vous dire. Donc, on va prendre ça dans 10 ans. Ce n'est pas trop loin, mais je pense que dans 10 ans...
Elle a grandi, quoi.
Elle a grandi, et en même temps, le climat, dans 10 ans, on peut un petit peu se douter. Ça va être encore plus chaud, ça va être encore plus froid, ça va être un moment pour rire. Je disais que ça, ce qui est sympa, c'est qu'on a découvert la manière de soigner le cancer, et les gens vont pouvoir fumer.
Ils refument, ouais.
Ça m'amuse, ça m'amuse, mais c'est pas amusant. Mais bon.
Justement, c'est ça aussi ce qui est bien de voyager dans le futur. Quand on est écrivain, on peut inventer tout un tas de gadgets futuristes.
On peut tout faire.
Là, il y en a quelques-uns. Il y a les tacobules, c'est-à-dire des sortes de taxis volants.
Je
ne
suis pas allé les chercher très loin, ceux-là, mais bon.
Mais un peu un côté ravage, quoi, de Barjavel. Oui. Mais vous auriez pu, justement, ça aurait pu être un formidable bac à sable pour vous d'inventer des trucs complètement
déants.
Oui, mais
je pense que ça m'aurait pris trop de temps. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse quand je m'assois pour écrire. C'est vraiment m'amuser avec les phrases, voir comment ça fonctionne, voir le style, la langue et tout ça. C'est aujourd'hui écrire un livre, à quoi ça sert si on n'est pas en train de donner une image du monde dans lequel on vit, même si on n'en parle pas précisément. Et cette image, à mon avis, on peut la trouver à travers la langue. Il y a une langue à adapter aujourd'hui, qui n'est pas forcément celle qu'on utilise ou que certains utilisent sur leur smartphone, qui est une langue qui est dans l'air. Et cette langue-là, autant au 19e, il l'avait trouvée, ce que c'était que cette mélodie du siècle. Et il y a une autre mélodie du siècle qui s'est mise en place, et c'est à nous, les écrivains, de la trouver, de faire les choix, de savoir si on ne fait plus que des petites phrases courtes comme Hemingway nous les a appris, ou comme Proust qui en a fait, lui, au contraire, des très très longues phrases. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est quoi ? Dans quel monde on vit ? Et moi, je pense qu'on vit dans un monde qui est à la fois horrible, terrible, mais super beau et super intéressant. Donc ça, il faut que je me dise, je vais le mettre dans une espèce de petite boîte, et ça doit être le style à mettre en place pour écrire ce genre de livre.
Y a une volonté, pas militante, mais enfin, est-ce que c'est aussi une manière d'alerter ? Vous êtes sensibilisé là-dessus ou c'est simplement la situation qui vous intéresse ? Quoi.
C'est la situation qui m'intéresse parce que j'ai toujours été, et je m'en aperçois de plus en plus, c'est que le monde littéraire, quand j'ai commencé à écrire, je ne le connaissais pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourtant, j'avais travaillé chez Gallimard. Je connaissais les écrivains, je voyais à peu près. Et les écrivains que j'avais vus chez Gallimard quand j'avais des petits stages comme ça pour gagner un petit peu d'argent, les écrivains n'étaient pas du tout des gens auxquels je voulais ressembler. C'était des vieilles personnes qui étaient plutôt emmerdantes, qui me demandaient de faire leur paquet avec leurs livres. J'avais surtout pas envie d'être écrivain. Non, moi, ce que je voulais faire, c'était, à la rigueur, écrire des chansons. Ça m'amusait. J'aimais bien parce que c'est court et qu'en même temps, si on le prend d'une manière un peu sérieuse, c'est hyper intéressant, les paroles de chansons. C'est pas de la poésie, hein, les dialogues de chansons. C'est un autre truc, c'est autre chose quand même. J'ai toujours été un petit peu à part. La preuve, c'est que quand j'ai amené mon premier manuscrit, il s'est trouvé que c'était chez Gallimard. On m'a dit, votre philosophie de la vie, elle est très intéressante, dadadada. Ils m'avaient mis deux pages comme ça. Mais à la fin, ils avaient dit, mais on ne peut pas le publier parce que vous vous placez délibérément en dehors de la littérature. Et aujourd'hui, je serais presque à verser des larmes si on me disait ça. Mais quand j'avais 30 ans, j'étais très content. Je disais, mais justement, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire partie de la littérature. Ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était les États-Unis à l'époque. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'était les livres, c'était la musique, c'était la mode. C'était le cinéma, c'était tout ça. Tout ce qui m'intéressait, ça se passait là-bas. Donc c'était ça qui m'intéressait. Je ne voulais pas du tout ressembler ni aux écrivains français, ni aux acteurs français, ni rien. Je voulais plutôt ressembler aux autres. Donc ça ne m'intéressait pas, la littérature en France.
Mais là, le climat, c'était ça ma question. Le climat, ça vous intéresse ? Ou alors c'est la situation qui vous intéresse ?
Alors c'est la situation. Parce que le climat, je pense qu'il y a... Mais même aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec cette fameuse Covid. Tout le monde a son mot à dire dessus, les scientifiques, les non-scientifiques, tout le monde s'engueule, personne n'est d'accord, tout le monde, personne ne sait rien. Et moi, sur le climat, je ne sais rien. Je sais juste que dans 10 ans, parce que je sens cette inertie quand même par rapport aux changements qui ont lieu. Il y a une inertie, on s'habitue à tout, on s'habitue à manquer de certains médicaments, on s'habitue à plein de choses qui sont un petit peu ennuyeuses. Et moi, je pense que dans 10 ans, on sera embêté, on sera ennuyé. on va vous emmerder si vous voulez rouler en voiture personnelle.
Il y aura des coupures de courant.
Des coupures de courant. Bah oui, avec les glaçons, c'est hyper emmerdant quand vous voulez boire frais et tout ça. Donc, mais on va s'adapter. Et c'est ce côté, c'est la résilience aussi des hommes qui est comme ça. On va résister à tout jusqu'au moment où on ne pourra plus résister. Mais il y aura toujours des espèces de poches de gens qui vont y arriver.
Restez avec nous, Philippe Jean. On résiste encore dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est libre, toujours avec Philippe Dian, qui signe 2030 chez Flammarion, un roman donc, qui se passe en 2030, c'est dans le titre. Et le climat, ben voilà, hein, ça chauffe maintenant. En 2030, l'herbe est brunie, il faut toujours mettre la clim, sinon on fond, tout simplement. Et puis, il y a la Greg qui travaille dans un laboratoire et qui, en fait, est surtout là pour cacher les effets secondaires éventuels d'un pesticide un peu dangereux qui est quand même dans la nature. Et puis il tombe amoureux d'une écologiste, une militante écologiste qui s'appelle Vera et qui est libraire, éditrice de militante comme ça, très très inspirée aussi par l'égérie Greta Thunberg qui a maintenant 10 ans de plus et dont le message porte un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, quand on reparle du climat, Philippe Dian, c'est que donc, vous nous présentez une situation où il fait, bon, là il n'y a plus de doute, il fait très chaud, ça ne va pas du tout, les saisons sont très franches, quand il fait chaud, il fait chaud, quand il pleut et ça n'arrête pas et c'est très très pénible. Et dans votre roman et donc dans votre esprit, vous imaginez que quand même, il y a toujours des types pour dire non, la Terre ne chauffe pas. Il y a toujours des climato-sceptiques dans votre roman.
Mais c'est ça aussi. C'est...
On se dit, au moins, il n'y aura plus ça, quoi.
Bah oui, ils vont s'apercevoir que oui, ça chauffe. Mais ils trouveront autre chose. Ils vont dire, mais c'est pas une vraie chaleur. C'est... Non, non. Je pense qu'en plus, on vit dans une époque que je n'aime pas du tout. En ce moment, je n'aime pas du tout ce qui se passe. Je n'aime pas du tout ce qui se passe parce que je pense qu'on aurait besoin un peu de sagesse, de tranquillité, de réflexion. Et il se trouve qu'on n'a pas tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces fameux putains de réseaux sociaux qui fait que tout le monde prend la parole sans rien savoir. Et moi, je dis, si les gens qui ont la possibilité d'aller sur les plateaux télé, comme moi, par exemple, viennent la ramener sans rien savoir, eh ben ça va faire que les choses iront encore plus mal. Donc, taisons-nous ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent, on peut aussi leur faire se dire, ils pensent savoir, mais on ne peut pas leur demander d'être complètement omniscient. Et puis, non, ils ne savent pas, ils se trompent aussi, ce n'est pas grave, mais au moins, ils ont quelques petites notions que celui qui gueule le plus fort sur les réseaux sociaux n'a pas. Et tout, en ce moment, tourne autour de ça. Les politiques, les machins, comment on se met. L'autre fois, je parlais, je ne sais plus à qui, Mélenchon, par exemple. Il dit que des conneries, quelque part. Il dit que des conneries dans le sens où il sait que la vérité qu'il connaît, il ne veut pas la dire. Parce que ça n'arrange pas ses affaires et ça n'arrange pas son parti, ni rien du tout. Mais en même temps, je trouve que c'est un type hyper intelligent. Et je l'écoute avec une espèce de joie malsaine, parce que je dis, merde, il s'est bien parlé, il n'est pas idiot, mais je lui en veux d'autant plus. Et il se trouve qu'en ce moment, il a l'air de dire, tiens, peut-être on devrait arrêter un petit peu ce côté, on est contre tout. Il y a des gens qui acceptent cette idée d'être contre tout. Je veux dire, mais je n'ai pas envie de parler à ces gens-là.
Mais si on lit votre roman, on s'aperçoit que ça ne va pas aller en s'arrangeant, mais vous pourriez être optimiste et vous dire que bah, si, il va y avoir des garde-fous, que ça va s'arranger, qu'on va y réfléchir et tout ça, non ?
Je pense qu'il y aura des garde-fous et tout ça, mais que ces garde-fous ne seront pas pour tout le monde. Il y aura des garde-fous pour les gens qui pourront s'offrir ces garde-fous. Et je pense que les gens qui sont dans le besoin et qui sont encore plus dans le... On peut employer des gros mots à la radio, hein ?
Oh, oui.
Encore plus dans la merde. Et que les autres, évidemment qu'ils auront accès à tout ce qui fait qu'on pourra tenir le coup. Mais ça va être encore pire. Je veux dire, on va tomber sur ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, quand on voit qu'il y a des villes entières qui sont avec des miradors et des barbelés, c'est que des retraités qui sont là. Donc il y a des gens qui s'en tirent, qui vont vous dire « Mais c'est génial, la vie, il fait beau, on joue au golf tous les jours. » Alors qu'il y a la moitié de la population qui est dans le pétrin.
Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être la réflexion va avancer et que les gens se diront plus « Je sais » quand ils ne savent pas. Et voilà. Que ça va peut-être
moi,
se
normaliser. Moi, je suis beaucoup
normaliser.
Plus vieux que vous et je sens mal ce truc-là. Mais je suis content d'entendre que chez des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, il y a encore cet espoir que oui, on va pas être complètement imbécile jusqu'au bout. Et moi, je crois que si, mais j'espère vraiment, vraiment me tromper.
En vous écoutant parler, en fait, j'ai l'impression d'écouter et de lire Bret Easton Ellis qui a signé White. C'était un essai, l'auteur d'American Psycho, Glamorama, etc. Un essai dans lequel il explique justement ce que vous dites, qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre une position pour être en phase avec les réseaux sociaux. C'est assez binaire, quoi. C'est soit t'es pour, soit t'es contre. Et puis, tout le monde, il dit aussi, tout le monde est trop sensible, tout le monde est très fragile en même temps dans cette violence-là.
Mais vous avez vu qu'il y a aussi Jonathan Franzen, que je trouve un excellent écrivain, qui dit, ça y est, attendez les gars, arrêtez, on est foutus quand même quelque part. Oui, il y aura toujours, on va tomber, ça va être quoi dans, alors, dans 10 ans, je pense qu'on ne sera pas encore Mad Max, mais on va y aller tout doucement. Je pense qu'il y a des gens qui vont... on nous dit tout le temps, les États-Unis, c'est 10 ans d'avance sur nous. Donc on peut dire que dans 10 ans, on va avoir ce problème-là. C'est-à-dire que là, au moment de voter, il y a des gens qui vont voter avec des mitraillettes à la main. Mais c'est complètement hallucinant quand même. Moi, j'ai fait mes 68. Ils étaient gentils à côté, les CRS, ils ne couraient pas très vite. Les flics, ils avaient des képis et des espèces de caps sur le dos, ils couraient après vous à vélo. Attendez, bon, j'exagère, il y en avait qui avaient des mobylettes quand même. Oui, c'était un peu plus vieux, ça. Non, mais là-bas, c'est quand même du délire. Donc on aura ça, on aura peut-être 2 camps en France, et quand les gens ne seront pas d'accord, il y en a qui descendront avec des bazookas. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Je ne sais pas... Une répression plus terrible, je sais pas.
C'est le cœur du livre, mais on passe aussi un peu là en discutant à côté de l'intrigue et des personnages quand même, parce que justement, ces personnages, ils symbolisent aussi d'autres alternatives. Il y a Greg qui est quand même le héros principal, qui est donc travaille dans son laboratoire avec son con de beau-frère qui est le patron, et lui en fait Greg, il est chargé de masquer les erreurs et enfin les fautes commises par le laboratoire, qui sait très bien qu'il y a des effets secondaires de son pesticide, mais qui veut pas que ça sache évidemment, mais Greg quand même il est travaillé par sa conscience, à la fois il aimerait bien garder sa Porsche que son beau-frère lui donne pour bosser chez lui, mais en même temps il est travaillé, et d'ailleurs il est amoureux de Vera et il respecte beaucoup ses choix écologiques. Il y a une réflexion sur le bien et le mal quand même chez ce personnage, c'est... voilà.
C'est parce qu'il y a un mort. En fait, il y a une personne qui va mourir. Mais quand je parle de ce produit qu'on met en place et tout ça, c'est pas compliqué pour nous aujourd'hui de dire qu'on a le même problème avec le glyphosate. Et ça fait des années que des gens vous disent qu'on tombe malade, que c'est dangereux, qu'on peut attraper le cancer avec ça. Et le truc est toujours en vente. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à un moment, il y ait un produit où on va avoir des morts, carrément. Ça sera prouvé. Il va se passer quoi? Rien. Les types, du jour au lendemain, peuvent changer
de nom. Il va se passer rien, oui
et
non, parce qu'on voit dans votre roman qu'il y a certains personnages, certaines personnes qui sont ambivalents là-dessus. On n'est pas d'un bloc.
Non.
Et donc, ça peut aussi aller du bon côté.
Parce que je trouve qu'après quelques années avoir vécu sur cette planète, je trouve que les gens sont ambivalents tout le temps. Tout le temps ambivalents. Je crois que je me suis trompé quand j'ai pensé que j'ai rencontré des personnes qui étaient d'un bloc. Personne n'est d'un bloc, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça, du fait que les gens sont d'un bloc.
Des raisons de s'en sortir aussi, parce qu'il y a aussi Lucie, la nièce,
qui
s'engage, qui y
voilà.
va. Quoi.
C'est quelqu'un qui reprend à la suite de Greta Thunberg. Elle veut absolument rencontrer Greta Thunberg parce que quand le roman démarre en 2030, elle a l'âge de Greta Thunberg aujourd'hui. Donc elle veut savoir, elle veut lui demander, vous êtes battu pendant 10 ans, vous sortez un livre, là, vous êtes battu pendant 10 ans, c'est quoi? Vous avez réussi à faire quelque chose ou c'est que des échecs? Donc elle a envie, mais elle a l'espoir de ça. Et lui, il y a un mort, et en même temps, le vrai problème de ce livre, je trouve que c'est... Parce que moi j'en reviens toujours, et des fois on me le reproche, et on a raison de me le reprocher, de tout le temps ramener tout au rapport entre des gens, entre des personnes. Mais moi j'ai l'impression que le monde ne fonctionne qu'à travers ça, que ce soit dans la politique, dans n'importe quoi, c'est la séduction, c'est l'autre, c'est tout le temps l'autre. C'est jamais passé à la télé, on s'en fout. Si on veut passer à la télé, c'est pour que si vous êtes un garçon qui aime les femmes, les femmes vous regardent et disent « Ok, il est mignon, il passe bien à la télé ». Mais c'est que ça, tout le temps, c'est des histoires de séduction. Donc, évidemment, que moi, mes personnages, à un moment, leur problème, ça va être « Tiens, je te trouve plutôt à mon goût. » Sauf que là, il y a 2 gros problèmes avec ces personnages-là. Il y en a un, le Greg en question a perdu sa famille parce qu'il est, par jalousie, il les a poursuivis en voiture. Il y a eu un accident. Donc, il a peur de recommencer une histoire d'amour parce qu'il dit « Ça va recommencer. La nouvelle va encore me poser des problèmes. » Et la nouvelle, elle se dit « J'ai déjà été mariée. » C'était pas terrible, et là j'ai un boulot qui me plaît, ça m'intéresse, donc je ne veux pas. Donc c'est 2 personnes qui s'attirent et qui se repoussent en même temps. Et ça m'intéresse. Plus que le climat, parce que ça j'ai l'impression que je peux en parler d'une manière beaucoup plus intelligente peut-être. Mais parler du climat, ça veut dire, vous rendez compte, aujourd'hui écrire un bouquin sur le climat, vous commencez par quoi? Par l'air, par la mer,
par les personnages.
Il y en a trop, il y en a trop. Et on n'aura jamais le dernier mot là-dessus.
Dans la série On n'est pas d'un bloc, il y a une scène avec Greta...
Thunberg.
Décidément, j'oublie son nom tout sans arrêt. Et pourtant, elle est connue internationalement. Je la connais, Greta Thunberg. Il y a une scène avec elle dans le roman où elle rencontre Lucie et elle lui fait un petit bisou sur le front. Et alors là, Lucie, elle est, c'est Dieu qui a posé son doigt sur elle. Quoi.
Bah oui.
Et il y a ce côté-là quand même. C'est pas, je ne dis pas qu'il y a de dénonciation ou pas de dénonciation, mais il y a ce risque des icônes, toujours. Quoi.
Bah, est-ce qu'on peut éviter ce risque? Je ne crois pas. Et autant, il vaut mieux que l'icône soit présentable et appréciable. Si c'est la mauvaise icône, et ça nous pend au nez de la même manière. Regardez par exemple ce qui va se passer aux États-Unis, il y a quelque chose qui leur pend au nez. Pour une fois, ce n'est pas nous, mais quand même par contre-coup, on va en entendre causer. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'icône des États-Unis, ça va être quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui est tout le temps en train de mentir et tout ça, ou est-ce que ça va être quelqu'un qui dit bah, « je vais essayer de rassembler un petit peu ». Donc demain, on aura soit l'Amérique, ça va être ce mec blond, orange, ou soit ce vieux monsieur qui est aussi en bout de course. Donc c'est compliqué.
Puisqu'on parle des États-Unis et des icônes, restez avec nous, Philippe Jean, parce que dans un instant, nous rendons visite à Jack Kerouac.
La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Philippe Jean, qui publie 2030 chez Flammarion. Il est l'heure d'ouvrir le livre culte. Et ça arrive, cette semaine, je l'ai choisi en fonction de l'invité, Sur la route de Jack Kerouac, publié en 1957, Les pérégrinations de Sal Paradise, le narrateur qui traverse les États-Unis de long en large, sur un rythme jazz, avec Dean Moriarty, entre autres. On y croise toute la Beat Generation, ces écrivains des années 50-60 qui vont contribuer à changer les mœurs et les manières de voir. C'est le roman de la liberté. Jack Kerouac l'a écrit d'une traite sur un long rouleau de papier qu'il a inséré dans sa machine à écrire et tac, 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 il ne s'est plus arrêté comme s'il était sur une longue route. C'est ce qui donne ce rythme très particulier à ce roman. On écoute la première page, lue par le comédien et aventurier Philippe Dussault. On en parle juste après.
J'ai connu Dean peu de temps après qu'on ait rompu ma femme et moi. J'étais à peine remis d'une grave maladie dont j'ai rien à dire. Sinon qu'elle n'a pas été étrangère à cette lamentable et déprimante rupture, à mon impression que tout était foutu. Avec l'arrivée de Dean Moriarty, commença le chapitre de ma vie qu'on pourrait baptiser « Ma vie sur la route ». Auparavant, j'avais souvent rêvé d'aller dans l'Ouest pour voir le pays, formant toujours de vagues projets que j'exécutais jamais. Pour la route, Dean est le type parfait, car il y est né. Sur la route, dans une bagnole, alors que ses parents traversaient Salt Lake City en 1926 pour gagner Los Angeles. Les premiers échos que j'ai eus de lui me vinrent de Chad King, qui me montra des lettres que Dean avait écrites dans une maison de correction du Nouveau-Mexique. Je fus prodigieusement intéressé par ces lettres dans lesquelles, avec tant de naïveté et de gentillesse, il demandait à Chad de tout lui apprendre sur Nietzsche et les autres choses merveilleuses que Chad connaissait. À l'occasion, Carlo et moi, nous parlions de ces lettres. Pourrions-nous jamais rencontrer l'étrange Dean Moriarty? Tout ça remonte bien loin, à l'époque où Dean n'était pas encore le type qu'il est devenu, où il était un gosse en cage, tout enveloppé de mystère. Puis, la rumeur courut que Dean était sorti de sa maison de correction et qu'il venait à New York pour la première fois. Waouh! On disait aussi qu'il venait de se marier avec une fille nommée Marilou. Un jour, où je traînais sur le campus, Chad et Tim Gray me dirent que Dean s'était installé dans un meublé minable de East Harlem, le quartier espagnol d'Harlem. Dean était arrivé la nuit précédente, venant pour la première fois à New York avec sa belle petite poule délurée, sa Marilou. Ils descendirent de l'autocar Greyhound à la 50e rue et, se baladant dans le quartier à la recherche d'un endroit où manger, ils tombèrent sur la cafétéria Lector qui, depuis lors, est toujours resté un haut lieu de New York pour Dean. Ils se payèrent de belles pâtisseries, glacées dans le sucre, et des choux à la crème.
C'était donc la première page de Sur la route de Jack Kerouac, lue par le comédien très rock'n'roll, très jazzy, Philippe Dussault. Philippe Dian, je ne l'ai pas choisi par hasard cette semaine, le livre culte. Je sais que c'est un livre qui a été fondateur pour vous.
Bah, il a été fondateur à l'état niveau, parce que, je veux dire, tous ces gens de la Beat Generation, c'est des gens qui ont à la fois nous ont parlé de philosophie, de musique, de voyage, et encore ces philosophies Extrême-Orient et tout ça qu'on ne connaissait pas encore. Donc c'est tout, ces gens-là nous ont amené tout ça. Et en même temps, dans un cadre, c'était la route. C'était, on n'a pas besoin d'avoir un loft à New York, il vaut mieux plutôt mettre un sac sur son dos et aller découvrir le monde. et profiter de plein de choses, mais c'est aussi les filles,
mais vous,
la drogue,
quand vous l'avez découvert, quand vous l'avez lu ce livre, vous aviez quel âge ? Quel a été l'effet ?
Bah, je pense qu'il a été écrit en 54, c'est ça ? Donc j'étais à peine, j'avais 5 ans, c'était pas beaucoup. Mais ça a continué, c'était une mèche longue en fait, ça s'est consumé pendant très longtemps. Et c'est des gens qui m'ont ouvert à plein de choses, bah, ne serait-ce déjà que la langue. Je veux dire, il y a une langue très très particulière qui est basée sur le hip-hop, le rythme et tout ça, sur la musique.
Donc, mais vous aviez quel âge quand vous l'avez lu, vous ?
Je ne sais pas, moi j'étais encore, ça devait être ma dernière ou avant-dernière année de lycée. Je devais avoir, je ne sais pas, 16 ans, 15-16 ans. Oui, enfin, je sais pas, ouais, un truc comme ça.
Et ça a infusé doucement ou ça a été vraiment immédiat comme
effet ? Non, ça a été un choc incroyable, quoi. Non, sur la route, ça a été pour moi un choc. Puis la suite, hein, il n'y a pas que sur la route, il y en a d'autres, les anges vagabonds, tout ça. Enfin, il y a plein de choses, mais je suis désolé de le dire et j'ai un peu honte de dire que tout ce qui m'a transformé, tout ce qui m'a ouvert les yeux au monde, c'est ce qui se passait aux États-Unis. Parce que tout à l'heure, je pourrais vous dire qu'après, il y a eu Salinger, qu'après, il y a eu tous ces gens-là. Et puis aujourd'hui, non, hier plutôt, il y a eu Philip Ross. Et aujourd'hui, il y a les gens dont on vient de parler, là. Donc non, c'est cette culture, mais que je déteste en même temps, parce que c'est des gens qui n'ont pas tout le temps raison, et qui sont comme ils sont un peu fous, c'est cette folie que j'aimais bien. Et c'est aussi l'idée que, ne m'intéressant plus ou moins qu'à ce qui se passait aux États-Unis, j'avais pas besoin d'appartenir au monde littéraire français.
Restez avec nous, encore des livres dans un instant, nous partons visiter la bibliothèque de Michel Cotta. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio. Michel Cotta publie Le Brun et le Rouge chez Robert Laffont avec Robert Namias, de la politique fiction d'anticipation. Décidément, en 2025 cette fois et non pas en 2030 comme chez Philippe Djian, l'extrême droite a pris le pouvoir et que se passe-t-il ? Réponse dans le roman. J'ai profité de l'occasion pour rendre visite à Michel Cotta. Je me demandais si je trouverais des romans dans sa bibliothèque et pas que des livres politiques. Eh bien, ouf, la réponse est oui. Allons-y. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de livres. Il y a deux pièces principalement où il y a des livres. J'ai vu le bureau avant d'ouvrir les micros. Mais là, je voulais quand même qu'on commence ici. Parce qu'il y a la Pléiade.
Il y a la source de la vie, c'est-à-dire la Pléiade avec... ça commence au XVIe siècle, et puis par ordre décroissant, le XXe est là, les étrangers sont là. Il faut dire que c'était plutôt mon mari qui s'en occupe, et que moi, je me contente de le lire. Mais du coup, ça entretient une familiarité avec les classiques, vous voyez, qui fait que... Et puis surtout, avec les différents écrivains que moi, j'ai ratés, par exemple. Je dis ça parce que j'ai raté Romain Gary. Et à l'occasion de sa Pléiade, j'ai relu tout Romain Gary. Et je me suis aperçu que c'est un écrivain extraordinaire et qui, pour moi, avait été, quand je l'ai connu dans le Paris de 1960-70, un aimable mondain ambassadeur. Et ben, je m'étais complètement trompée. Mais voilà, ça me permet des années plus tard de revenir sur des lectures, ou plutôt des non-lectures du passé.
Ça me fait plaisir parce que, pour tout vous dire, quand je suis arrivé en taxi avec Julien, l'ingénieur du son, je me suis dit, ça va être bien, il va y avoir beaucoup de livres chez Michel Cotta, mais il n'y aura que des essais. Moi, ce que je préfère, c'est les romans. Et en fait, pour tout vous dire, j'en ai visité des bibliothèques. Hein. J'ai jamais vu la collection complète de la Pléiade comme ça sur plusieurs murs. Quoi. C'est très, très impressionnant. Mais donc, vous aimez les romans quand même ?
Ah ben, je lis des romans tous les soirs, c'est-à-dire, mais je lis Balzac autant que Jules Verne, Victor Hugo, par exemple, on a relu l'autre jour l'intégralité des Misérables, si je peux vous dire que ouais. Voilà. Mais autant Dickens, que j'adore, que les Français, beaucoup, beaucoup de romans, et même uniquement des romans, bien sûr.
Qu'est-ce que vous cherchez, outre le divertissement dans le roman et l'information dans le livre politique, qu'est-ce que vous cherchez dans l'un et dans l'autre ? Et quelle est la différence entre les deux ? Qu'est-ce que vous préférez lire ?
J'aime beaucoup lire les livres politiques. Par exemple, je viens de lire le dernier livre de Jackson, d'un écrivain, d'un professeur anglais sur De Gaulle, qui est formidable. Je suis en train de lire le Churchill, par exemple, qui est non moins formidable, mais qui est sur ma table de chevet en ce moment.
Mais qu'est-ce que vous trouvez dans le roman qu'on ne trouve pas dans le livre politique ? Ou l'inverse, d'ailleurs ?
L'imagination. d'abord l'imagination, puis l'écriture. L'écriture, quand on l'écriture de Victor Hugo, c'est pas celle d'Honoré de Balzac. Stendhal, c'est Stendhal. Flaubert, quand même, on lit Bouvard et Pécuchet en se marrant, alors que vous voyez,
il n'y a pas assez d'efforts de style dans les livres politiques d'aujourd'hui et des.
Ben, c'est pas le style qu'on juge. C'est pas le style qu'on juge. Là, c'est ça fait rêver, moi, tous les romans de Dickens, par exemple, que j'ai adoré, m'amènent dans un autre monde. C'est la connaissance d'un autre monde, voilà. Tandis que la politique, c'est la connaissance de mon monde.
Magnifique. Alors, il y a juste un couloir qui nous emmène dans votre bureau tout là-bas. On va le prendre parce que... Alors, c'est... Ah, c'est quoi dans le couloir? D'ailleurs, je n'avais pas vu les livres, là.
Ça, ce sont des livres...
Ils sont très hauts.
Non, ils sont très hauts, mais ils sont surtout sur la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, d'accord.
Ils sont les livres de tous les collaborateurs, le plus important des collaborateurs de la guerre. Parce que j'ai fait une thèse sur la collaboration. Et donc j'ai fait une thèse là-dessus, mais du coup j'ai considéré que ces livres étaient, voilà, qu'on pouvait un peu les exiler, quoi.
Alors là, on est dans votre bureau, il y a un petit bureau avec un ordinateur, et puis des livres tout autour, dans toute la pièce, qui doit faire une pièce qui doit faire peut-être 15 mètres carrés, bon. Et tous les murs, en fait, sont tapissés de livres. Alors ce ne sont, à première vue, que des livres politiques, des livres de journalistes
mal classés, ou de d'historiens. Mal classés.
Ah oui, mais alors enfin, justement, est-ce qu'il y a un classement
Globalement, voilà. Globalement, mais c'est trop global. De temps en temps, je ne le retrouve pas et je le recommande sur Kindle immédiatement. Mais enfin, bon, disons que tout ce qui est le communisme de l'entre-deux-guerres est là. Tout Mitterrand est à côté avec la gauche.
Oui, forcément.
Avec la gauche. Là, ce sont les essais plutôt autour de Le Pen. Et, bon, au-dessus, il y a tous les livres consacrés à Chirac et de Chirac sont là. Au-dessus encore, tous les livres consacrés à Sarkozy et à leurs proches. Là, il y a le général de Gaulle. Comme vous voyez, c'est là où il y a le plus de livres.
On parlait du style, les mémoires de Gaulle, il y a du style. C'est écrit magnifiquement.
Les mémoires de Gaulle, c'est formidable. Mais quand vous lisez les mémoires de Gaulle, ou même quand vous lisez du Mitterrand, qui est aussi d'une bonne facture, vous oubliez le style derrière les personnages et les actions. Donc, ce n'est pas tellement le style que vous jugez. Oui, vous vous dites à De Gaulle, là, qu'il y a quand même quelques mots formidables, quelques phrases, mais encore une fois, François Mitterrand aussi. Mais ce n'est pas tellement ça que vous jugez.
Est-ce que vous avez une pièce maîtresse dans tout ça? Je ne sais pas, moi, un livre dédicacé ou une édition originale ou un truc qui vraiment, c'est celui que vous prenez s'il y a le feu, quoi.
Alors, celui que je pense, il le fait, mais c'est le plus grand. Et il est dans la pièce à côté. Venez voir. Venez voir. Mais alors, c'est très grand. Ça m'étonnerait que j'arrive à le transporter, mais je l'ai mis là, comme un
plus beau livre,
et qui est...
Ah oui, d'accord. Oui.
Alcool d'Apollinaire, voilà.
Alcool d'Apollinaire, et c'est la version manuscrite aussi. Aux éditions des Saint-Pères, dans son beau coffret.
Voilà.
Je l'ai aussi, pour tout vous dire.
Ah bon ?
C'est magnifique. C'est les éditions des Saint-Père qui font ça, qui font des facsimilés. On a l'impression qu'on touche l'original. Et votre premier livre, il est là ?
Le premier
celui
livre.
Que vous avez publié, vous ? Le premier,
oui,
le tout premier ?
Ah, le tout premier, non, il n'est pas là parce que c'était un numéro spécial fait avec Jean-François Revel quand j'étais très jeune, sur des élections. Donc ça n'est pas un livre, ça n'a jamais été édité en livre. Mais enfin, c'est un... souvenir auquel je tiens.
Mais Jean-François Revel, on peut en dire un mot. C'était un personnage incroyable.
Non, ça, c'est Le Monde. Ben oui, j'ai travaillé.
Comment vous avez. C'était parce que vous étiez à l'Express, non? Comment
c'est... Oui, c'est ça, j'étais à l'Express.
Il était directeur de l'Express à l'époque.
Non, il n'était pas encore directeur de l'Express. Il était chroniqueur à l'Express. Et il m'a demandé, on lui a demandé de faire quelque chose sur les élections de 1965, voilà, le voyant.
Les élections présidentielles. On dit l'élection présidentielle aujourd'hui.
Oui, maintenant on dit les élections. Oui, là, et ça datait.
C'est marrant.
Et c'était la première. Je veux dire, la première.
Jean-François Revel. Vous me dites un mot de Jean-François Revel, du personnage ?
Pour le coup, moi je suis admiratrice de son style, qui est quand même unique et formidable, qui n'est pas un style journalistique, qui est un style d'écrivain, hein, vraiment. Et puis bon, c'était quelqu'un à la fois de très rigolo, mais dont de temps en temps, effectivement, la facilité vers l'alcool, l'amener à déraper un peu, mais on aimait ses dérapages aussi. Et donc, voilà. Enfin,
vous ne bougiez pas en travaillant, quand même ?
Non, pas, moi pas.
Ça ne vous a jamais lassé, la politique ?
Écoutez, jamais. Voilà. jamais, parce que rien ne se passe jamais comme, comme c'est prévu, parce que on avance des théories formidables qui ne se réalisent pas. Il y a toujours des inconnus qui viennent bouleverser les choses. Et c'est vrai que aucun jour n'est pareil au précédent.
Vous n'avez jamais eu marre de la mascarade, quoi, de vous dire, bon, votre numéro, là, on le connaît par cœur, les enfants.
Non, mais je le connais par cœur, les numéros, je le reconnais par cœur, à tel point, je pourrais les faire moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ralentit quand même mes interviews avec les hommes politiques, parce que j'avais l'impression que je pouvais répondre à leur place, ouais. Qu'ils allaient me dire.
Mais justement, ça
mais non, lasse
pas.
Non, je trouve que c'est... Je trouve que, après tout, ce sont des gens qui, quand même, ont, pour la plupart, un sens de l'intérêt général. Je crois qu'on doit être deux en France, c'est Alain Duhamel et moi, à être persuadés que quand même...
À les aimer un peu.
Pas à les aimer, à dire qu'il y a des pourris, mais qu'ils ne le sont pas tous pourris. Et que l'intérêt général, c'est quand même mieux que l'intérêt particulier.
Les hommes politiques sont des personnages de romans, mais les écrivains politiques ou les journalistes politiques qui écrivent des essais sont aussi des personnages, souvent. Vous êtes un personnage, Catherine Ness est un personnage, Françoise Giroud, Philippe Tesson, il y a quand même des personnages là-dedans.
Des
personnalités fortes, au moins.
Je ne sais pas, mais ce qui m'intéresse, c'est les autres, quand même. Donc, ce qui m'intéresse, sont les autres. Par exemple, il y a les deux livres de Chirac, ces mémoires, qui sont tout à fait beaucoup plus intéressants que ce qu'on a dit, dans lequel il y a beaucoup de choses. Et dans lequel on voit un Chirac différent de ce qu'on pensait se dessiner. Donc vous voyez, c'est vrai, on tourne autour de ces personnages qui font l'histoire immédiate, donc qui ne savent pas qu'ils font l'histoire en la faisant. Et puis il y a ceux auxquels, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? Pourquoi est-ce qu'on s'est tellement intéressé à Chirac? On l'a vu à son enterrement. Alors que, comme vous savez, lorsqu'il a été élu, il n'a jamais eu au premier tour plus de 20% des voix, et même plutôt moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche la sympathie d'un homme? Pourquoi était-il sympathique, cet homme qui était quand même à la tête d'un parti, à la tête d'un clan?
Il l'était vraiment?
Comment est-il?
Ou c'est l'image qu'on s'en fait?
Ah oui, tout à fait. Non, ce n'est pas l'image qu'on s'en fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un qui... On ne peut pas dire la même chose de tout le monde, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait comme... Donc il y a toujours l'autre comme préoccupation, ce qui est quand même pas mal, et c'est pour ça qu'il a tellement réussi en province. C'est parce qu'il avait toujours cet essence forcée,
c'était sincère,
sans qu'on le lui dise, qu'il disait comment va votre petit garçon, est-ce qu'il est sorti de l'hôpital, vous voyez. Alors ça marque. Enfin, mais vous faites le lien, c'est marrant, parce que je n'y ai jamais vraiment pensé, vous faites le lien entre mon amour du roman classique et mon amour des livres politiques.
Bah, je suis pas venu pour rien.
Voilà.
Merci Michel Cotta, merci beaucoup. De retour en studio, Le Brun et le Rouge, c'est le titre du roman de Michel Cotta chez Robert Laffont, coécrit avec Robert Namias. Philippe Dian, je serais curieux de visiter votre bibliothèque un jour, mais vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Biarritz, c'est ça?
Je la cache.
Comment elle est? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Est-ce qu'il y a des livres anciens, des éditions originales, ou alors est-ce que vous êtes plutôt poche? Est-ce que vous les gardez tous? Est-ce que vous triez sans arrêt?
J'en jette. Il y a des bouquins, pour moi ce n'est pas des livres, et quand ce n'est pas des livres, je les jette. Quand c'est des livres qui ne m'intéressent pas, je les mets en tas dans un coin et ça monte jusqu'au plafond, mais je ne peux même plus voir ce que c'est, donc je ne peux même pas me dire « Ah tiens, je vais aller voir celui que j'avais mis, c'est trop compliqué, donc je les laisse tomber. » Par contre, j'ai dans mon bureau que les livres qui m'ont appris à vivre. C'est que des gens que j'aime ou qui m'ont vraiment transporté, qui m'ont intéressé, qui m'ont énervé aussi. Donc c'est vraiment des livres qui sont comme des... C'est un compagnonnage, hein, je veux dire. La lecture, c'est des gens qui, d'un seul coup... Quand un écrivain arrive à vous imposer un petit voyage dans son univers, vous ne pouvez plus le quitter. C'est des choses. C'est comme un voyage que vous, si vous voyagez demain en Grèce ou je ne sais pas où, ce pays va vous marquer, vous allez le garder, même si vous oubliez des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les choses importantes qui deviennent peut-être presque essentielles. C'était les choses à comprendre et à voir. C'est celles qui restent, en fait. Mais tous les auteurs, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne pourrait pas... Aujourd'hui, c'est très très compliqué de savoir, même pour quelqu'un qui en fait son métier, d'écrire, qu'est-ce qui se passe en littérature. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment en Russie, je ne sais pas vraiment ce qui se passe en Inde. Déjà en Allemagne, quand je suis invité, des fois on me dit « Qu'est-ce que vous pensez de la jeune écriture ou littérature contemporaine allemande ?» Je n'en sais rien, mais c'est parce que je n'ai pas le temps. J'ai tellement de livres à lire, je n'ai pas le temps, donc... même en France, je trouve, et là je sens que je vais me faire assassiner, mais j'ai vraiment du mal à trouver des écrivains qui sont du gabarit des Philip Roth et de tous ces gens-là. J'y arrive pas. Et il y en a qui sont certainement très très intéressants, mais il faudrait qu'à ce moment-là, il y ait soit une très très grosse chaleur qui vous bloque chez vous et vous êtes obligé de lire, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre, ou alors qu'on vive 200 ans. C'est impossible de savoir tout ce qui se passe. Impossible.
Restez avec nous. Dans un instant, justement, on va acheter des livres chez notre libraire.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, toujours avec Philippe Djian et son nouveau roman 2030 chez Flammarion, que l'on trouve chez tous les bons libraires, bien sûr, et donc chez Thibaut Raden à la librairie L'Écriture de Vaucresson. Bonjour Thibaut Raden.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir à la librairie L'Écriture de Vaucresson. On fait un petit tour d'abord, avant de votre gros coup de cœur. Qu'est-ce qui vous plaît en ce moment? Qu'est-ce que vous tendez aux clients?
Je tends un polar qui s'appelle Requiem à huis clos. C'est de Ruriko Kishida et c'est aux éditions d'Est en Ouest qui propose de la littérature japonaise contemporaine. Donc quelque chose ça peut être des livres qui sont sortis il y a très longtemps mais qui n'ont jamais été traduits, donc c'est assez superbe. Et Requiem à huis clos, c'est hyper bien fait. C'est Gaston Leroux version japonaise dans le monde de l'art.
Le mystère de la chambre jaune, hein, Gaston Leroux.
Voilà, exactement. Et c'est ça. C'est un homme qui disparaît dans une chambre close. On ne sait pas ce qui se passe. Des années plus tard, 5 ans plus tard, sa femme croit reconnaître quelque chose de son mari dans un tableau. Et à partir de là, tout s'enchaîne et c'est génial.
Oula, ça donne envie. Requiem à huis clos de Kishida Rukiko et les éditions d'Est en Ouest. Je ne connaissais pas, tiens. Quoi d'autre?
On a aussi la BD Terre, qui est un nouveau cycle de Rodolphe et Dubois, aux éditions Daniel Maguen. Donc c'est la suite du cycle Terre, T-E-R, là c'est Terre comme la Terre où on habite. Et c'est de la science-fiction absolument géniale. C'est-à-dire qu'on va suivre les personnages de l'ancien cycle qui arrivent justement sur Terre. Sauf que ce n'est pas la Terre qu'on connaît, on a l'impression qu'il y a encore des dinosaures, qu'il y a plein de trucs. Mais en même temps, le vaisseau sur lequel ils sont arrivés est déjà là. Donc ils sont arrivés sur un vaisseau qui est déjà là et qui est là depuis très longtemps. Il y a un vrai dessin, il y a une vraie histoire, il y a un vrai sens de la narration, c'est superbe.
Ça a l'air bien, en tout cas c'est beau. Hein. C'est un grand format celui-là, c'est la BD classique. Hein.
Ouais, c'est de la BD classique, nombre de pages classiques aussi, mais elle fonctionne.
Bon alors, et votre gros coup de cœur qui déchire tout en ce moment, c'est quoi?
Alors mon gros coup de cœur...
On a changé de rayon là.
Ouais, on a complètement changé de rayon, on est dans du théâtre. Mon gros coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle Relief de Claire Médard. Et c'est les éditions de Beauvilliers. C'est un tout petit éditeur. C'est même de l'impression à la demande, tellement il est petit. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors déjà, ce livre, il m'a été proposé par une cliente. Elle m'a demandé de le commander. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Ça a l'air marrant et tout. Et donc, elle m'en parle. Et je lui dis, OK, moi, je vais le lire aussi. Donc, je l'ai commandé pour moi. Et en fait, c'est absolument génial. C'est l'histoire d'un couple. L'homme lui fait une déclaration d'amour terrible, enfin, terriblement belle, pendant qu'elle, elle fait sa liste des courses. Elle n'en a absolument rien à secouer. Et lui, il pense qu'elle lui répond. Enfin, il y a tout un c'est de l'absurde, hein. C'est du Ionesco, c'est du Samuel Beckett. Enfin, vraiment, vous retrouvez tout ça. Elle sait écrire en plus de ça. Elle est très drôle. Et en fait, ce que j'aime beaucoup...
C'est-à-dire qu'il ne parle pas de la même chose. Elle est en train de parler de sa liste de courses, lui d'amour. Et en fait, ils se comprennent quand même. Ou ils croient se comprendre.
Mais en fait, ils croient se comprendre. Mais ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où leur discours change, c'est-à-dire qu'elle, elle lui répond peut-être vraiment, ou lui se dit « mais elle ne me répond pas », et bien à ce moment-là, ils ont un tantinet de réalité dans leur conversation. Et même nous, ça nous perturbe. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Et ça repart. Mais ça veut dire ça exprime plein de choses, des conversations qu'on peut avoir avec les gens où personne ne s'écoute, où tout le monde croit s'entendre. Et en même temps, c'est fait avec tellement d'humour sur des choses très simples comme l'amour ou faire ses courses. C'est une petite pépite que... J'aimerais bien conseiller plus, parce que le théâtre, en plus de ça, on n'en lit pas beaucoup. Et puis pareil, c'est comme le manga ou la BD, ça reste de la littérature aussi. Et ça, ouais, j'ai adoré ce livre. J'en ai parlé à des gens qui lisent du théâtre dans mes clients, qui m'ont promis d'y jeter un coup d'œil ou qui le feront. J'en ai vendu quelques-uns et je le conseille vivement. Elle mérite amplement aussi sa place parmi les gens qui font du théâtre, des bons dramaturges. C'est quelque chose, je suis sûr, qu'à jouer en vrai, qu'est-ce que ça doit être drôle. On voit tout, on a envie de le faire, quand on le lit, on a envie de les voir en face de nous et rire à gorge déployée, quoi. C'est génial.
45 pages.
Ouais, à peu près, je crois que c'est ça. Ouais, 49 pages, mais de pur plaisir.
Merci beaucoup Thibaut.
Ben, merci Nicolas.
Retour à Europe 1 avec l'écrivain Philippe Dian. Vous étiez un enfant lecteur, je vous pose la question juste après la chronique de ce grand enfant de Victor Dolande qui va nous rejoindre. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Oula, ça a l'air pas mal encore cette semaine. La couverture est sublime, ça s'appelle Le supplice de la banane et autres histoires horribles de Madlena Seliga et Emilia Dziubak.
Oui, je vous présente un album qui va faire frissonner nos chères têtes blondes. C'est un recueil de 20 histoires toutes plus épouvantables les unes que les autres. Elle nous raconte les destins brisés de fruits et légumes. Les choux sont déracinés avant d'être décapités et tranchés sans merci en lamelles par de grandes mains brutales, forcément. Et les tomates, elles, sont violemment assassinées lors de la célèbre Tomatina, vous savez, cette fête espagnole où les participants...
Ah oui, 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 se lancent des tomates, une bataille de tomates géantes.
Exactement, ces pauvres fruits charnus, ils les lancent le plus loin possible. Et je n'ose même pas vous parler du sort de la carotte, Nicolas.
Ah bah vous en avez trop dit maintenant.
Ok, alors si vous y tenez, si vous y tenez, c'est une grande silhouette qui se penche sur elle. La carotte est d'abord scalpée de façon rapide, brutale et imprécise. Mmh. Ensuite, le supplice continue, on lui ôte sa peau bande après bande et cette pauvre petite carotte finit son existence sur un nouvel instrument de torture. La grande râpe en acier, morceau après morceau, la belle orange disparaît. Je vous lis les derniers moments de son calvaire. Durant la dernière seconde de sa vie, elle sentit une terrible et brûlante douleur. Des grains de sel se répandaient sur son corps râpé en charpie. Son ultime demeure fut un saladier. L'auteur de ce massacre était un mari et un père exemplaire. Ah, ouais. Sa famille Quelle avait horreur. Observé toute la scène. Tous souriaient, personne ne protesta. Seule sa femme lui dit « Encore un petit peu de sel ?»
Et aucun légume ne se venge jamais, tiens.
Alors
fait.
Si, justement, il y en a un qui va réussir. Le piment, qui sera le justicier piquant de tous ces légumes martyrs, tel une abeille, il partira en kamikaze en laissant un souvenir impérissable à son bourreau. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré, Nicolas, cet album. L'idée est géniale, c'est raconté avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et en empruntant, forcément, le vocabulaire du crime, l'auteur a parfaitement réussi son coup, bien aidé par des somptueuses illustrations, avec un petit côté gothique qui rajoute un zeste de terreur à toutes ces histoires. Et l'auteur a quand même ajouté une note à la fin de l'album destinée aux enfants, je vous la lis. « Chers enfants, je sais que vous n'avez pas peur. De quoi faudrait-il avoir peur? Ce sont des histoires inventées, comme celles des monstres. Mais regardez vos parents, ils ont la chair de poule. Que faire? Les parents sont ainsi. Réconfortez-les un peu et assurez-leur que tout cela, ce ne sont que des grandes balivernes qui font un peu rire et un peu peur, comme toutes les histoires d'horreur. Et moi, je vous assure que les enfants, dès l'âge de 6 ans, vont adorer avoir peur. Mais surtout, Nicolas, ils vont beaucoup, beaucoup rire.
Et les illustrations sont magnifiques. Ouais. Et la couverture, je vous disais, on voit une banane qui est coupée en morceaux. Et effectivement, elle a l'air d'être inconsciente.
Eh bah oui, la pauvre, c'est un supplice.
Ça s'appelle donc Le supplice de la banane et autres histoires horribles de Madlena Seliga, illustrée par Emilia Dziubak. C'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Merci, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Et vous, Philippe Dian, c'est quoi le premier livre que vous avez lu quand vous étiez gamin? Ça peut être de la littérature jeunesse ou pas, hein?
La question, elle est intéressante parce que qu'est-ce que c'est que ce premier livre que j'aurais lu qui m'a marqué? Et ça veut dire que tout ce que je lisais avant, celui que je vais choisir, tout ce que j'ai lu avant n'avait pas un intérêt littéraire évident. Ou alors, c'était moi qui n'étais pas capable de me... Parce que bah, j'étais au lycée comme tout le monde, donc on me faisait lire Mérimée, on me faisait lire tous ces trucs-là. Je ne peux pas dire que je tombais à plat ventre et que je rentrais chez moi en courant pour lire la suite de Mérimée. Les choses ne me touchaient pas. Et pourtant, j'étais en lettres. Parce que j'étais tellement mauvais en maths, il fallait que je sois en lettres. Donc j'étais en lettres. Et oui, la littérature, bah bon, c'était un travail, un exercice, des gens qui avaient écrit des trucs. C'était la guerre des Michards et tout ça. Ce n'était pas très excitant. La preuve, c'est que les gens qui m'ont à un moment étonné, par exemple comme Céline, ce n'est pas au lycée que j'ai appris qui était Céline. Ce n'est pas au lycée que j'ai appris... qui était Hemingway, qui était Faulkner, qui était Kerouac, et tous ces gens-là, c'est pas au lycée qu'on les apprend. Donc, pour en revenir, je vais éliminer tout ce qui ne me semblait pas être de la littérature ou des livres, où ça m'a vraiment fait un choc, c'est arrivé à la première année à Vincennes, en fac. Un ami à moi me donne l'attrape-cœur de
Salinger.
De Salinger. Et là, ça a été un choc, je me suis dit, mais je savais pas ce que c'était, j'avais pas compris ce que c'était qu'écrire, j'avais pas compris ce que c'était que la littérature. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé. À quel point lire un livre, ça peut vous transformer, mais vous transporter, vous transformer de la tête aux pieds. Quoi. C'était, d'un seul coup, j'avais quelqu'un qui me parlait. C'est-à-dire que la voix de...
Holden Caulfield, qui est le héros et qui fait une fugue pendant 3-4 jours dans New York.
Qui s'arrête devant un trottoir et parce qu'il est angoissé, il ne peut pas traverser, il a peur, le monde lui fait peur.
Et en c'est même lui temps, qui c'est raconte et il a 14 ans. Donc
déambulation dans New York et tout ça. Mais c'était la première fois que j'entendais une voix qui me parlait, que je comprenais et qui... Je l'ai dit aussi pour Kerouac, c'est-à-dire que c'est des gens qui ils arrivent avec vous avec un espèce de couteau. Quoi. Et si les brutes, ils vous tapent dans le sternum, donc ça ne fait pas très mal. Mais celui qui est intelligent, il vous met tout doucement la lame dans le ventre et il l'ouvre tout doucement. Et ça, ces gens-là, Kerouac et tout ça, c'est qu'à un moment, ils vous crucifient. Quoi. Ils vous crucifient, ils vous ouvrent et là, tout se passe. Et là, vous vous dites, je crois que je vais écrire.
Jusqu'à...
Parce que ça sert à quelque chose.
Jusqu'à ce roman, donc, 2030, chez Flammarion, de Philippe Dion. Merci beaucoup d'être resté une heure avec
plaisir.
Nous. Merci beaucoup, Philippe Dion.
C'était un plaisir.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.